Bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'accueillir à Station Ozone Pierre Petit. Vous êtes ancien journaliste reporter, professeur d'université, écrivain. On vous doit notamment une édition critique de Noa Noa de Paul Gauguin aux éditions Jean-Jacques Pauvert et compagnie en 88. Vous êtes aussi spécialiste de l'œuvre de Pierre Molinier, auquel vous avez consacré de nombreux articles et plusieurs livres, dont Pierre Molinier ou La Tentation de l'Orient aux éditions Opale et Pleine Page en 2005, et Moi, petit vampire de Molinier en 2012, réédité en 2015 chez Pleine Page. Et là, nous vous recevons à l'occasion de la sortie aux éditions Mollard en coédition avec L'Arbre Vengeur de votre biographie, Pierre Molinier, une vie d'enfer, revue et corrigée, qui avait paru en 92 éditions Ramsay et Jean-Jacques Pauvert. Alors, Pierre Molinier est un artiste bordelais sulfureux, peintre, photographe, né en 1900 et mort en 1976. Et aujourd'hui, il est reconnu comme un des pionniers du body art et un précurseur du mouvement de l'art queer. Et Molinier est en quelque sorte le quatrième M de Bordeaux, toujours encore maudit, entouré de mystères, d'histoires, de rumeurs, auxquelles votre biographie s'attache à dégager le vrai du faux, même si avec Molinier, tout est toujours plus compliqué, comme nous le verrons. Alors, la première question que je voudrais vous poser, c'est comment et dans quelles circonstances êtes-vous devenu le biographe de Pierre Molinier ?
J'ai travaillé dans les années 60 au journal Sud-Ouest comme pigiste, essentiellement dans la page des jeunes qui n'existe plus, qui s'appelait 1724 à cette époque-là. Et je m'occupais également de la page universitaire. Et je faisais mes études à l'Université des Lettres de Bordeaux, à la Faculté des Lettres de Bordeaux, le matin et en début d'après-midi. Et je ne venais au journal que vers 3h ou 4h l'après-midi. Et très souvent, Molinier était passé à la rédaction locale, voir ses amis, et il avait fait un cirque absolument extraordinaire en déballant ses dernières photos, ses derniers photomontages, et parfois même les objets très particuliers, les objets plutôt sexuels, très particuliers, qu'il transportait dans son cabas. Et j'ai manqué pendant des années, pendant peut-être 2 ans, j'ai toujours manqué Molinier. Puis je suis parti aux États-Unis comme étudiant et comme professeur. Et une année, je suis revenu en France pour terminer ma maîtrise à cette époque-là et pour enseigner pendant un an pour les étudiants de l'Université de Californie sur le campus de Bordeaux. Et un jour, je me suis dit, ça suffit, il faut que j'aille voir, que je connaisse Molinier. Je lui ai mis une demande de lui rendre visite dans sa boîte aux lettres. Le lendemain, j'avais une réponse. Le surlendemain, j'avais une réponse par la poste et je suis allé le voir.
Mais comment vous êtes devenu son biographe ?
Une certaine affinité, je dis bien intellectuelle, s'est établie entre nous. Je dis bien intellectuel, car il n'y a jamais eu, entre Molinier et moi, aucune affinité sexuelle, ni dans ses fantasmes, ni dans ses pratiques. Donc c'était purement intellectuel. Et j'ai été fasciné et passionné par son œuvre picturale, son œuvre photographique, et aussi par le lien extraordinaire qu'il y avait entre son œuvre artistique et sa vie. Et nous nous sommes vus pendant probablement 4 ou 5 ans, je pense même 5 ans, nous nous sommes vus régulièrement, à peu près tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, quand j'étais à Bordeaux. Mais à cette période-là, j'étais soit j'enseignais à l'université du Cap en Afrique du Sud les cinq premières années, soit ensuite à l'université d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Donc je ne le voyais que lorsque j'étais en France. Je revenais en France à peu près 2 fois par an. Il est décédé alors que j'étais encore à l'université du Cap. En 1976, je suis resté à l'Université du Cap jusqu'en 1978.
Alors, sur quelles sources vous êtes appuyé pour écrire ce livre ?
D'abord, il m'a demandé de faire sa biographie. Il me disait, moi, je ne sais pas écrire, ce qui était faux, d'ailleurs. Vous le verrez dans le livre, il y a énormément de textes qui sont remarquables. Lorsqu'il écrivait tous les jours, c'était épouvantable. Il avait une graphie et une orthographe absolument épouvantables. Mais lorsqu'il devait écrire un article ou un texte à publier, il s'assurait que tout était absolument parfait. Donc il m'a demandé, lui ne sachant, disait-il, pas écrire, et moi étant plutôt dans le milieu de l'écriture, il m'a demandé de préparer sa biographie. Et il m'a fourni, année après année, au moins pendant 3 ans, il m'a fourni des documents sur lui, des textes qu'il avait, qu'il voulait que je connaisse, des correspondances qu'il voulait que je connaisse, et évidemment beaucoup de photomontages, beaucoup de photos et de reproductions de dessins, de reproductions de tableaux.
Mais après, vous avez fait énormément d'entretiens avec des gens qui l'ont connu.
Alors, j'ai d'abord fait un entretien de lui-même. Un entretien qui dure presque 2 heures, que j'ai enregistré avec un de ces vieux magnétophones avec des bandes qui tournaient. Et je l'ai enregistré essentiellement sur des questions de biographie. Et nous avions prévu de faire un second enregistrement plus centré sur ses techniques picturales et photographiques, mais il était de plus en plus malade, il avait de grosses difficultés à rester hors de son lit parfois, et moi n'étant pas toujours à Bordeaux, le second enregistrement n'a jamais eu lieu. Par la suite, lorsque j'ai décidé de reprendre les documents et les notes que j'avais prises pendant ces années-là, j'ai commencé à interviewer tous ceux que je connaissais qui avaient connu Molinier. Et il doit y avoir à peu près une vingtaine d'enregistrements sur cassette qui existent toujours et à partir que je n'ai exploité qu'en partie pour le livre, mais qui se retrouvent abondamment dans le livre.
Il a eu une carrière artistique à la fois peintre et photographe. Est-ce qu'il y aurait une période de peintre, une période où il peignait, et une autre période où il était photographe ?
Oui, oui, oui. Alors, la première période est une période évidemment de peinture. Mais il commence à faire de la photographie très tôt, probablement aux environs de 18 ans. C'est une période de photographie tout à fait banale. Et à partir des années 50, il sexualise son médium photographique. Et il va y avoir une certaine coïncidence entre les tableaux et une concomitance entre les tableaux et les photographies. Au fur et à mesure qu'il avance en âge, notamment ses mains deviennent de plus en plus abîmées par l'arthrose et il a des difficultés à peindre. C'est à ce moment-là qu'il commence à faire de la photographie, ou plutôt qu'il accélère la production de photographies. Dans les années 60 à peu près, à partir de 63-64, il accélère dans la production de photos érotiques.
Alors, comment la vie érotique de Molinier, ses obsessions, ont alimenté son œuvre ?
C'était à la fois un travail d'artiste et un travail d'érotomane, si on peut dire. Il y avait une sorte d'osmose entre ses pratiques sexuelles et la transposition qu'il en faisait dans son œuvre peinte, mais aussi dans son œuvre photographique. Évidemment, dans son œuvre photographique, c'est lui-même en personne qui se met en scène. Dans les tableaux, c'est davantage de l'imagination érotique. Mais dans la photographie, très très souvent, c'est lui-même, son corps maquillé, son corps fétichisé.
Son corps en femme, parce qu'il avait, il y avait l'idée qu'il voulait devenir une femme. Ou à un moment, il a dit « je
non,
suis... »
Non, il ne voulait pas devenir une femme. Il voulait retrouver la partie féminine qu'il y a dans chacun de nous, à des degrés, parfois 1%, parfois 90%. Chez lui, c'était quand même une partie féminine très importante. Donc, il sentait qu'il avait en lui cette partie féminine et il voulait la faire ressurgir et la vivre dans sa vie de tous les jours. D'où le maquillage, d'où le travestissement et la transposition qu'il y en a dans la photographie. Mais ce qu'il voulait faire, c'était retrouver l'androgyne initial. La partie masculine qu'il avait et la partie féminine que la société lui refusait. Il voulait les combiner.
Oui, c'est un motif qu'on retrouve effectivement beaucoup, le thème de l'androgynité, effectivement, dans toute son œuvre. Mais il a aussi déclaré « je voudrais être une femme, mais lesbienne ». Donc il y avait quand même l'idée de... être une femme, celle de, parce qu'il a, on peut parler des femmes de sa vie, il a eu plusieurs, parce qu'on peut en parler d'Emmanuel, de Hanel et de...
Oui, il a d'abord eu sa femme, qui était une des plus belles femmes de Bordeaux, que moi je n'ai pas connue, mais qui était une des plus belles femmes de Bordeaux, et le couple a donné une fille, Françoise Molinier, qui était également magnifique, dont il était amoureux, dont il disait qu'il avait, avec qui il avait eu des relations physiques, ce que Françoise a toujours nié. Ensuite, il y a eu d'autres femmes qui ont compté pour lui, des femmes qui l'ont introduit dans la pratique sexuelle, mais il y a eu surtout trois femmes qui ont été très importantes dans sa vie. D'abord, même plus que ça. D'abord, une nommée Monique. Maintenant, nous connaissons sa véritable identité. Monique, qu'il disait que c'était sa seconde fille. Rien ne le prouve. Mais Monique, qui était en réalité une prostituée. Molinier avait conservé des carnets de santé de Monique. À cette époque-là, les prostituées étaient surveillées comme le lait sur le feu par les autorités sanitaires françaises. Donc Monique a été probablement son amante. Il lui a même acheté un bar qui se trouvait à Lormont, à l'époque où il y avait encore la base militaire américaine, et les militaires américains avaient pour habitude d'aller boire un verre et plus si affinité dans le bar de Lormont, et Molinier se déclarait comme tenancier de bordel. Ensuite, il y a eu une femme qui a beaucoup, beaucoup eu d'influence à la fois intellectuelle et artistique sur lui, c'est Emmanuel Arsan. Emmanuel Arsan, pour pas mal d'entre vous, ça signifie quelque chose. Pour la jeunesse d'aujourd'hui, ça ne signifie plus rien. Mais Emmanuel Arsan, c'est elle qui a été à l'origine du fameux film Emmanuel, Mais à l'origine du film, il y avait le roman Emmanuel. Dans les années 59-60, et Molinier a découvert ce roman et il a été passionné par l'histoire d'Emmanuel et il a pris contact avec elle. Ils ont correspondu très abondamment ensemble et Molinier est même allé la voir à Paris où il l'a photographiée. On a souvent nié qu'il l'avait photographié, mais moi, vous le verrez dans le livre, j'ai remis les pendules à l'heure, et il a bien photographié Emmanuel à Paris lors de son passage à Paris. Et Emmanuel et son mari, Louis-Jacques, sont venus à Bordeaux une après-midi, une soirée, une nuit, une matinée, entre deux. De Sud Express, où ils ont passé une nuit chez Molinier. Vous pouvez imaginer ce qui a pu se passer avec Molinier. Les Rolet-Andrian, qui c'est le nom de ce couple, le nom de famille de ce couple, le Rolet-Andrian que j'ai rencontré chez eux en Provence, m'ont évidemment décrit ce qui s'était passé, mais je crois que la décence et leur volonté de garder pour eux cet épisode quand même très intime a fait que je n'ai pas encore dévoilé ce que Molinier a fait avec eux. Et je pense que je ne serai pas tenté, à moins qu'on me brûle la plante des pieds, je ne serai pas tenté de le dévoiler publiquement. Et une troisième femme, une Allemande, une magnifique créature, qui s'appelait Annel Koek, et qui s'appelle toujours Annel Koek, elle est toujours vivante, qui a influencé Molinier dans la dernière partie de sa carrière photographique. Elle a été également son amante, et elle a beaucoup influencé sa manière de concevoir la photographie érotique. Finalement, dans les années 60, fin des années 60, il a connu dans la rue des Fossés où il habitait, il a connu une petite jeune ouvrière. C'était une ouvrière dans le textile. Elle faisait des costumes, je crois, dans une entreprise de textile de Bordeaux. Et elle est devenue son amante. Et c'est une personne très simple, qui est toujours en vie, une personne très simple qui l'a éduquée à ses pratiques érotiques. Et je crois que c'est la dernière qui a eu une influence sur lui. Il a fait beaucoup de photos de celle qu'il appelait le petit vampire, et je l'ai interviewé pour faire ce livre que vous avez mentionné, Moi, petit vampire, de Molinier.
Et pourquoi il l'a surnommé le petit vampire?
Il l'appelait le petit vampire car elle avait la spécialité de lui faire... excusez-moi du terme, du faire des suçons dans le cou et de le mordre jusqu'au sang. Elle aimait le sang. Alors, le problème, c'est que cette édition de Moi, petit vampire de Molinier a été tirée à un nombre d'exemplaires absolument minime. Je crois une cinquantaine pour la première édition et une centaine pour la seconde. Donc, c'est totalement introuvable. Peut-être Monsieur Mola sera-t-il intéressé de reprendre ce texte.
Nous avons deux exemplaires qui sont en vente aujourd'hui.
Mon Dieu, vous avez trouvé deux exemplaires,
oui.
De la première ou de la seconde
édition? De
la deuxième édition. Car la première édition La première édition a été tirée par un amateur de un bibliophile, un amateur de très belles éditions d'art, mais il a fait faillite en quelques semaines après. Donc les 50 exemplaires n'ont pas été réédités. En revanche, pour Pleine Page édité au fur et à mesure qu'il y avait une demande. Il éditait 10 exemplaires. Je crois qu'il a dû tirer à peu près à une centaine d'exemplaires. Si vous en avez deux exemplaires, si la librairie est encore ouverte, préparez vos chéquiers. Car j'imagine que vous allez la vendre 10 fois le prix auquel elle a été diffusée la première fois.
Parmi toutes ces femmes, il y a une certaine Cécile. Est-ce que vous nous racontez cette histoire invraisemblable du conseil qui tue ?
Oui. Alors, je parle beaucoup de Cécile également, mais Cécile n'a pas été une amante physique. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas ajoutée tout à l'heure. C'était une bonne amie. D'ailleurs, il l'a peu ou pas photographiée. Mais elle venait le voir, elle était très très présente dans sa vie quotidienne. Elle avait ouvert une boutique dans la rue des Fossés et puis ensuite sur la place Saint-Pierre, une boutique qui s'appelait le Corset qui tue. Pourquoi le Corset qui tue ? Parce que Cécile avait passé une soirée avec le propriétaire d'une boîte de nuit bordelaise, et à la fin d'une soirée, ils étaient allés prendre un verre dans un bar, puis chez ce patron de boîte de nuit. Et chez lui, il était passé dans sa salle de bain pour prendre un bain, une douche. Et pendant que les jeunes filles il y avait deux jeunes filles à ce moment-là, elles se préparaient dans le salon et elles s'étaient mises en grand attirail fétichiste. Et lorsque ce monsieur est sorti de la salle de bain avec une serviette de bain autour de la taille et un parfum Lanvin dans la main, et qu'il a vu ces deux jeunes filles habillées, enfin peu habillées, mais en guêpière, en dentelle, et il est tombé raide mort. Il est tombé raide mort. Crise cardiaque. Hein. La police a été appelée. Les jeunes filles se sont rhabillées, s'il vous plaît. On fait disparaître toutes les dentelles. Mais il y a un rapport de police qui authentifie cet épisode du corset qui tue. Et je n'avais pas pu authentifier cet épisode dans la première édition, et j'ai pu authentifier cet épisode dans la seconde grâce à des recherches que Pierre Carle et son assistante qui s'appelle Madame Bazurco, je crois, ils ont retrouvé le dossier de police, et ils m'ont permis de consulter ce dossier de police qui authentifie l'histoire du corset qui tue. Donc, Cécile Zébi est allée voir Molinier après avoir été libérée des griffes de la police. Et à 6 heures du matin, et Molinier était enchanté de cette affaire. Il avait même proposé de trouver d'autres personnes qui seraient susceptible de mourir dans les mêmes conditions. Et Cécile Zébi ensuite a ouvert cette boutique, une boutique de dentelles et de vêtements, de sous-vêtements féminins. Et un jour, Molinier était là. Ils ont décidé de lui trouver un nom. Et Molinier a proposé le corset qui tue.
Molinier avait un rapport assez paradoxal à la religion catholique, à la fois les profondeurs des curés, de la curetaille, mais très attaché à la figure du Christ et au motif de la croix.
Pas vraiment à la figure du Christ. D'ailleurs, il ne parle, oui, il parle de temps en temps du Christ, mais pas directement. Mais à la croix, oui. La croix est importante pour lui. Elle est importante pour lui parce que elle est un symbole. Elle est le symbole suprême de la religion catholique. Lui, on ne sait pas si c'est vrai ou non, mais probablement il avait été d'abord éduqué par les frères des écoles chrétiennes à Agen, où il était né. Il avait été éduqué dans cette école. Il en avait retiré quand même un souvenir assez négatif. Et il dit qu'il aurait passé quelque temps au petit séminaire de Bonne Encontre, qui est également qui n'est pas loin d'Agen. J'ai fait quelques recherches. Rien n'a pu authentifier cela. Mais il en a gardé une hargne contre la religion catholique, chrétienne essentiellement, et dès qu'il pouvait dénigrer ou dès qu'il pouvait se moquer de la religion catholique, il ne s'en privait pas. Il y a des tableaux où la croix apparaît, où il y a même plusieurs crucifixions d'hommes et crucifixions de femmes qui sont évidemment très troublantes et très déroutantes. Il avait prévu que le tableau « Ô Marie, Mère de Dieu » où l'on voit un Christ moitié homme, moitié femme, avec Marie qui fait des douceurs au Christ et l'autre femme qui est probablement Madeleine qui lui emboîte le pas, si on peut dire. Il avait fait ce tableau et il voulait le vendre au pape. Estimant que le pape était la seule personne qui avait autorité pour le lui acheter et le mettre dans les enfers vaticanes. Inutile de vous dire qu'il n'a pas obtenu de réponse positive. Et le tableau « Ô Marie, Mère de Dieu », qui est absolument splendide, un grand tableau, le tableau « Ô Marie, Mère de Dieu » a été acheté d'abord les Roléandrianes ont voulu le lui acheter, mais financièrement ils étaient en difficulté, ils n'ont pas pu le lui acheter, et c'est Annel Koek qui l'a acheté. Elle l'a apparemment revendu à un collectionneur français, il se trouve, d'après ce que je sais, à Paris.
Puisqu'on a parlé de la religion catholique, mais il était plus fasciné par l'Orient et plutôt par les religions orientales, d'une certaine manière.
Alors, non. L'Orient, il a été fasciné par l'Orient à partir du moment où il connaît Emmanuel Arsan. Emmanuel Arsan était thaïlandaise. Mais il s'était déjà intéressé à l'Orient bien avant. Mais l'Orient a été un motif de supplémentaire de dans sa peinture et dans sa photographie à partir du moment où il connaît Emmanuel Arsan.
Il y a quand même l'épisode avec les émissaires du Dalai Lama que vous évoquez.
Oui. Alors, là encore, est-ce que c'est de la fabulation ou de la réalité? Moi, je n'en sais rien. Il dit que dans les... Et même, il avait des difficultés à le dater. Probablement dans les années 36-40, quelque chose comme ça. Il dit que des envoyés du Dalai Lama sont venus le voir à Bordeaux pour lui demander de faire une série de 13 dessins érotiques qui étaient destinés à être postés dans des temples tibétains. Molinier les aurait faits au cours d'une année. Et un an plus tard, les envoyés du Dalai Lama seraient venus les chercher, l'auraient rémunéré avec des pierres précieuses, et ils auraient emporté les dessins. Évidemment, nous n'avons aucune possibilité de savoir si c'est une des histoires de Molinier ou si c'est vraiment la réalité. Son lithographe, Christian Baudet, qui est malheureusement décédé l'été dernier, l'automne dernier, m'a dit que Molinier lui avait dit qu'il possédait l'adresse sur son carnet d'adresse de ces tibétains, de ces lamas tibétains, et que Molinier lui avait donné l'adresse d'un bijoutier où Molinier se place Puy-Paulin, je crois, où un bijoutier aurait examiné les pierres que les Tibétains lui auraient données et que Molinier aurait fait deux parts, la part qui lui revenait et ce qui était en trop, il aurait redonné aux Tibétains. Mais Christian Baudet n'a pas pu retrouver ce bijoutier, donc nous en sommes toujours là.
Alors, si l'éros est central dans son œuvre, le rapport à la mort était aussi important. Vous consacrez plusieurs pages, en fait, à sa mise en scène de sa propre mort et surtout l'épisode de sa croix tombale dans les années 50. Oui, vous parlez de tous ces éléments-là.
Oui, plusieurs choses. D'abord, il y a l'épisode de la création de sa croix tombale. À ce moment-là, Molinier est encore en activité de peintre en bâtiment. C'était ça, sa profession. Et il entretenait les peintures de deux cliniques bordelaises, la clinique de la rue derrière l'ancienne faculté de lettres de Bordeaux, la petite rue qui se trouve derrière. Son nom m'échappe. Pardon ? Non, une toute petite rue qui est derrière la rue, qui est derrière la faculté, la clinique, bon, peu importe, et également la clinique du Tondu. Et c'est à la clinique du Tondu qu'il, un matin, très tôt le matin, il avait créé une tombe. Avec une fausse tombe, bien sûr, dans le jardin, et il avait planté une croix. Il avait créé cette tombe parce que le père de la petite Monique, la prostituée des premiers temps, le père de la petite Monique était décédé et il était allé faire une tombe similaire dans le cimetière de Bordeaux Nord. Et à cette occasion, il a dit, mais écoutez, je vais faire ma propre tombe. Et il avait donc fait une tombe en mettant des fleurs artificielles ou des fleurs qu'il y avait dans ce jardin-là. Il avait créé une croix noire sur laquelle il avait écrit des inscriptions un peu Sigy Pierre Molinier qui a eu une vie sans honneur, il s'en fait gloire et honneur, etc. Bon, vous verrez tout cela est retranscrit dans la biographie. Et cette tombe a été photographiée, la photo est devenue très célèbre. Ensuite, il s'est photographié sur son lit de mort. Quelques années plus tard, sur son lit de mort, en costume, comme il voulait mourir, parfaitement habillé, avec, ça ne se voit pas très bien, mais on peut quand même le deviner, avec la braguette ouverte, le sexe à l'air, avec la main d'une poupée artificielle qui devait y faire quelque chose. Et finalement, il y a une autre. Et finalement, sa mort n'a pas été conforme à ce qu'il voulait pour sa mort. Il voulait mourir habillé en costume noir, après s'être fait les ongles rouges, de façon à ce que il avait donné son corps à la médecine, de façon à ce que les étudiants de médecine soient scandalisés lorsqu'ils le disséquerait et qu'il voit les ongles rouges de ses pieds. La réalité, c'est que c'était le rêve, c'était le fantasme, mais ça n'a pas correspondu du tout à sa mort. Il s'est suicidé parce que il ne pouvait plus peindre. Il avait aussi des défaillances sexuelles assez notoires. Et il n'en voulait plus. Il avait 76 ans, il n'en voulait plus. Et il voulait contrôler sa mort lui-même. C'était un grand amateur d'armes à feu. Donc il a organisé sa mort comme il avait prévu. Mais c'est d'ailleurs le père de David Vincent, que vous avez vu tout à l'heure, c'est Jean-Didier Vincent qui a ouvert la chambre de Molinier après son suicide. Il s'est suicidé d'une balle dans la bouche. C'est Jean-Didier Vincent qui a ouvert la porte et qui a découvert le cadavre. J'ai eu la chance d'avoir l'autorisation de consulter les 15 photos que l'identité judiciaire a prises lorsque la police est venue ce soir-là, cette nuit-là, puisque c'était assez tard dans la nuit. Et ces photos ne correspondent pas à ce que Molinier avait voulu. Il est en t-shirt blanc avec un chandail. Lorsqu'on a découvert le cadavre, il est sans slip. Il a de grosses chaussettes de laine et non pas des bas à résille comme il avait prévu. Le revolver est retombé sur la poitrine. La balle est sortie par l'arrière de la tête sans faire aucun dégât. C'était un travail de bon connaisseur de balistique. Mais c'est une fin quand même assez triste, alors qu'il avait prévu une fin glorieuse.
On n'a pas évoqué la relation de Molinier avec le surréalisme. Est-ce qu'il se considérait lui-même comme un artiste surréaliste ?
Très difficile à dire. Lui-même, il était très fier d'avoir été soutenu et, on peut dire, mis au goût du jour par André Breton. Ils ont eu une correspondance très abondante pendant de nombreuses années, de 1953, je crois, ou 54, jusqu'à la mort d'André Breton en 68. Il disait qu'il était donc très fier d'avoir été soutenu dans son travail artistique par André Breton, mais il disait qu'il était différent des surréalistes. J'essaie d'expliquer ça, ce n'est pas facile, j'essaie d'expliquer cette dichotomie entre l'attirance qu'il avait pour le surréalisme et la différence qu'il voulait marquer entre lui et eux. Mais il y a quand même beaucoup de similarités dans la manière de concevoir l'art et dans les thématiques de Molinier et celles du surréalisme, oui. On peut dire que Molinier est un peintre surréaliste, oui, il n'y a pas de doute.
On n'a pas encore évoqué son grand œuvre, qui est quand même le chaman et ses créatures. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui. Le chaman et ses créatures, alors là, on est dans... On rejoint la thématique orientale. Molinier se considérait comme un chaman. Il y a de magnifiques photos et photomontages où la thématique orientale apparaît. Il a commencé à travailler, après avoir connu Emmanuel Arsan, il a commencé à travailler sur un album. C'est l'époque où il commence à ne pas... Où il ralentit sa production de peinture, de tableaux peints. Donc, il se concentre à ce moment-là sur la photographie et il prépare un album qui contiendra 74 illustrations. Alors, il y a des photomontages qui sont absolument magnifiques, qui sont probablement les plus belles de ses œuvres. C'est un travail extraordinaire que les photographes aujourd'hui admirent et ne comprennent pas, parce que techniquement, ce qu'a fait Molinier, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, techniquement, c'est incompréhensible, la manière dont il a fait ces photos-là. Donc, 74 illustrations, donc probablement une quarantaine de photos et photomontages, qu'il travaille et retravaille pendant des années. Il cherche un éditeur. 5, 6, 7 éditeurs sont sollicités. Mais Molinier est tellement exigeant sur la qualité de la reproduction. Et il veut que l'essentiel du tirage soit fait à Bordeaux ou pas trop loin de Bordeaux, qu'il décourage Jean-Jacques Pauvert, Régine Deforge, Tchou et d'autres. Il les décourage jusqu'au point que, bien qu'on lui présente que le dernier éditeur, son nom m'échappe, mais le dernier éditeur lui propose un contrat, il ne signe pas. Et il décède sans que cette édition soit publiée. Il faudra attendre 1995 pour que l'éditeur bordelais, Jean-Paul Michel, face à cette édition qui est absolument magnifique et qui correspond absolument, Molinier aurait été enthousiasmé, qui correspond exactement à ce que Molinier aurait attendu en qualité de reproduction de ses photographies et photomontages.
Alors justement, vous avez parlé de cette technique particulière, effectivement, un grand travail en fait de montage, de refotographie. Est-ce que vous nous parlez effectivement techniquement de son travail, de ce travail photographique très, très particulier?
Molinier travaille pour la plupart de ses photos, pour toutes ses photographies d'art, il travaille avec un appareil en bois, un des vieux appareils à souffler en bois, qui remonte probablement au début du siècle, du 20e siècle. Il utilise des châssis en bois dans lesquels il glisse soit des plaques de verre, soit des films placés entre deux plaques de verre. Il prend ses photos sous le voile noir, puis il développe ça dans l'évier de sa cuisine. D'abord, il expose au soleil ou à la lumière de lampe ou parfois à la lumière solaire. Il n'a pas d'agrandisseur. Molinier n'a jamais travaillé avec un agrandisseur. Il n'en a pas. Tout est fait par papier contact. Quand le tirage est fait, les photos sèchent sur les fils à linge dans sa cuisine avec des épingles à linge. Quand il a obtenu un tirage, si ce sont des photos simples, bon, c'est terminé. Mais si ce sont des photomontages, il va découper les photos originales. Il va se constituer des dizaines et même des centaines de petits morceaux de corps qu'il va recomposer, puis refotographier, puis retirer. Il va le refaire plusieurs fois si nécessaire, retoucher avec des crayons gris, blanc, noir, et faire ses refotographies jusqu'à ce qu'il obtienne le photomontage qu'il veut. Là où les photographes d'aujourd'hui sont sidérés, c'est qu'avec toutes ces retouches, toutes ces refotographies, on ne voit aucune trace de tirage, retirage, maquillage, pose de résille parfois. C'est un mystère. Molinier, pour des grands photographes d'aujourd'hui, est un maître dont ils ne comprennent pas. Ben, ils comprennent la technique, mais ils ne comprennent pas comment il a pu faire autant de retirages et de refotographies sans que rien ne se voie.
Donc, vous parlez de découpage, le découpage, le démembrement, c'est des choses que vous évoquez. Qu'est-ce que ça vous évoque?
Alors, il découpe les corps. D'ailleurs, dans ces tableaux, certains de ces tableaux, les corps sont aussi découpés. Dans la religion tibétaine, le mort doit être exposé aux intempéries et aux bêtes sauvages de façon à ce que le corps soit déchiqueté, découpé. Donc Molinier utilise cette tradition tibétaine de découpage des corps, et il possède des ouvrages dans sa bibliothèque qui étaient considérables. Il possédait à peu près un millier de livres. Il possède dans sa bibliothèque des ouvrages qui nous font penser qu'il était au courant de cette technique mortuaire et qu'il pratique lui-même dans ses tableaux, dans ses dessins, dans ses photomontages.
Est-ce que c'était une manière pour lui de renaître?
C'est une manière de renaissance. C'est une manière dispersion de lui-même et de recomposition de lui-même dans la forme qu'il souhaite la plus heureuse pour lui.
L'une des surprises de votre livre est de constater le côté protéiforme de son œuvre. On connaît effectivement le côté peintre, photographe, mais il était aussi sculpteur, cinéaste, entre guillemets, performeur, poète, presque.
Poète, il a été poète. Il a écrit des poètes qui sont d'ailleurs tout à fait surréalistes. Il existe un petit recueil d'une quinzaine, vingtaine de poèmes, introuvables, bien sûr, qu'un jeune iconoclaste peintre, dessinateur bordelais, qu'il a connu dans les deux dernières années de sa vie, Thierry Agulot, a publié, là encore à quelques exemplaires, aujourd'hui introuvables. Donc oui, il a été poète, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. C'est tout à fait dans le style ésotérique et surréaliste à la fois.
Il a fait aussi un petit film.
Oh, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Non, 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 non. C'est un film en Super 8. Un film petite caméra qu'il. Il se filme les jambes, ça dure 16 minutes, quelque chose comme ça. Vous verrez, je n'ai plus en mémoire si c'est 8 minutes ou 16 minutes, peu importe. Ça se trouve dans les annexes de la biographie. Il se filme les jambes de manière primitive et rudimentaire. Hein. Et puis il pose la caméra devant lui et il se filme les jambes également. On ne voit pas son visage ni le reste de son corps. Donc oublions. Ce film existe. Il se trouve maintenant à la Maison européenne de la photographie. Et il existe. Le film lui-même existe là-bas, mais il a été numérisé et à la Maison européenne de la photographie, à la bibliothèque, on peut le visionner car il a été numérisé. Il suffit d'aller là-bas pour le voir.
De votre biographie, vous dites qu'il était un impressionnant homme de parole, mais aussi en lisant, on découvre que c'était effectivement un homme de l'écrit aussi qui était assez brillant dans sa déclaration et dans sa correspondance.
Oui. Quand il écrivait un texte destiné à être connu, il accordait une grande attention à ce qu'il écrivait, et ça a de la tenue. Sa proclamation lors du scandale du tableau Le Grand Combat en 1951 à la galerie des Beaux-Arts, il avait accroché une proclamation incendiaire où il insultait ses collègues avec des termes injurieux que vous retrouverez. Vous serez très édifiés. Il était capable d'écrire des textes importants. Certains sont repris ici. Donc dans la vie de tous les jours, il écrivait épouvantablement, avec une graphie et une orthographe épouvantables, mais lorsque c'était destiné à être lu par l'extérieur, et dans sa correspondance également, c'était convenable, très convenable.
Alors, juste une dernière question pour parler du thème de l'androgyne qui semble vraiment au cœur de son œuvre. Est-ce que sa transformation en être androgyne n'est-il pas le grand œuvre de Pierre Vouligny?
Non, je ne dirais pas ça. Je dirais que son grand œuvre, c'est le chaman et ses créatures. L'album du chaman et ses créatures. Oui, ça, c'est son grand œuvre.
Merci, Pierre Petit.